L'agité du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui mercredi 9 décembre. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Laval toujours. Ciel dégagé ce matin, petit soleil, tout va bien.
Petit soleil, oui, qu'on n'aperçoit plus trop là, en tout cas à Château-Gontier, par la fenêtre du studio. Mais effectivement, on est plutôt sur une belle météo. Après ce petit point météo, allons-y pour l'émission et pour d'autres sujets, comme par exemple celui que tu as fait justement, Claire, des tutos pour éviter les accidents domestiques. C'est ce que propose en tout cas l'ancien pompier mayennais Bruno Beneux avec sa chaîne YouTube Fire Consulting. On va parler aussi d'un film, La Grâce du Sillon, de Cyril Le Tourneur. À défaut de pouvoir être projeté en salle, il sera disponible demain soir en ligne. L'occasion d'évoquer la modification des paysages naturels dans le département avec son réalisateur et l'un des intervenants dans le film, Jean-Marc Laloze, du collectif Bocage 53. Et puis un nouveau cybercafé ouvre ses portes près de Mélédumène. Claire nous donne tous les détails en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Hommage national à Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui.
Une minute de silence a été observée il y a un quart d'heure à midi dans toutes les administrations, avec des drapeaux en berne sur tous les établissements et bâtiments publics en hommage à l'ancien président de la République décédé mercredi dernier. À Château-Gontier, un livre d'or est mis à disposition des habitants à l'hôtel de ville toute la journée. Valéry Giscard d'Estaing, qui a d'ailleurs des origines mayennaises, Claire, je ne sais pas si tu savais, son ancêtre 5 générations auparavant venait du département. Constant Paillard-Duclery, c'est son nom, a même été maire de la commune d'Olivet au début du 19e siècle, puis conseiller départemental. Cette découverte vient d'un apprenti aux archives départementales de la Mayenne.
Covid-19, les indicateurs repartent à la hausse.
Selon les derniers chiffres donnés par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence dans le département est de 100,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Quant au taux de positivité, il s'établit à 10,9% avec 7 nouveaux décès comptabilisés.
Des formations pour devenir ambassadeur Covid-19.
Leur rôle, faire de la prévention concernant l'épidémie, en rappelant l'importance du dépistage et de l'isolement pour combattre la Covid-19 et répondre aux questions des personnes qu'ils rencontrent, des responsables d'associations, de collectivités territoriales ou des personnes en contact avec les personnes âgées peuvent devenir ces fameux ambassadeurs, mais il faut avant tout participer à une formation dispensée par l'Agence régionale de santé. Pour les Mayennais, la prochaine session a lieu mardi 15 décembre de 9h30 à midi en ligne. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire sur le site de l'ARS Pays de la Loire.
Laisser aux parents la liberté de choisir l'instruction de leurs enfants.
C'est ce que souhaite le député du Nord-Mayenne Yannick Favennec, alors que l'article 18 du projet de loi visant à conforter les principes républicains est présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Ce texte entend fortement limiter l'instruction à domicile, souligne le député, qui s'interroge sur sa constitutionnalité. Yannick Favennec se dit opposé à cet article dans sa forme actuelle. Il demande au gouvernement quelles dérogations seront mises en place.
Une maison ravagée par un incendie dans le Nord-Mayenne.
Le feu s'est déclaré hier vers 13h dans la commune du Ribet, dans un garage juste à côté de cette maison. Les flammes se sont propagées dans le garage qui a été entièrement détruit. Des fumées noires ont endommagé la maison mitoyenne. Pas de blessés à déplorer, mais les habitants, une famille de 5 personnes, a été relogée par la municipalité. Et puis un autre incendie cette nuit à Chemazet, cette fois au lieu dit Malabry. Le feu s'est déclaré dans un atelier vers 2h du matin. La collection qu'il contenait est parti en fumée, même si du matériel a pu être récupéré. Personne n'a été blessé, mais les pompiers étaient encore sur place ce matin.
30 000 panneaux mis en place photovoltaïques, dans le sud Mayenne.
Oui, c'est encore en projet, Claire, mais la centrale photovoltaïque s'étendrait sur les communes de Congrier, Saint-Saturnin-du-Limay et Renazé. Un permis de construire vient d'être déposé et une enquête publique doit désormais déterminer si ce projet est économiquement viable. S'il voit le jour, ce sera le plus important jamais réalisé en Mayenne.
Le salon Laval virtuel aura lieu cet été.
Et non au printemps, comme prévu habituellement, en cause l'épidémie de coronavirus à laquelle veulent échapper les organisateurs et la volonté aussi d'étendre la durée de l'événement, puisque le Laval virtuel se tiendra donc du 3 au 11 juillet 2021 à la salle polyvalente, mais aussi dans d'autres lieux de la ville.
Direction le Vendée Globe, Maxime Sorel maintient sa 11e place.
Sur son bateau Viennby Mayenne, le skipper poursuit sa route au large des îles Kerguelen, tandis que Fabrice Amédéo, lui, est toujours 21e. Et puis Claire, désormais on va parler de tutos un peu particuliers aujourd'hui, explique-nous ça.
Oui, Bruno Bonneau est ancien sapeur-pompier et l'ancien responsable départemental du secteur prévention du service de secours de Mayenne. Depuis sa retraite, il a lancé sa chaîne YouTube Fire Consulting, où le contenu est préventif sur les risques des accidents domestiques. Mais d'où est venue cette idée ?
J'ai eu l'idée pendant le confinement. Moi, je ne suis pas un bricoleur et je me suis dit que si on fait du bricolage, on va forcément se blesser et ce n'était pas le moment, lors du premier confinement, d'aller encombrer les urgences. Donc, l'idée est partie comme ça, de faire les petites vidéos. J'ai commencé la première avec les détecteurs de fumée. Ça a rencontré un succès absolument fantastique. Et j'ai eu beaucoup de retours en me demandant où est-ce qu'il fallait le mettre. Et j'ai entendu des gens qui le mettaient dans la cuisine et ils l'avaient enlevé parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Ah, j'ai dit, effectivement, dès qu'il y a de la vapeur ou quoi que ce soit, le détecteur est là pour réagir. Donc, c'est surtout pas dans la cuisine qu'il faut le mettre. Le détecteur, je l'ai rappelé, se met dans le couloir qui mène aux chambres, et le but, c'est de vous réveiller la nuit. D'autres qui l'ont enlevé parce que ça n'arrêtait pas de sonner toutes les 2-3 minutes. C'est tout simplement parce que la pile arrive en fin de vie, et il faut tout simplement changer la pile. On est plus dans la répression en France que dans la prévention. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y a quand même 80 000 habitations qui sont détruites par le feu. Il y a quelques 800 décès. Je trouve déplorable de voir qu'il y a encore des gamins de 5 ans qui se noient dans des piscines. C'est absolument inacceptable. Aujourd'hui, ça ne devrait plus arriver, ça. Et malheureusement, tous les étés, ça arrive à chaque fois. Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je suis un grain de sable dans le désert sur cette affaire. La majorité ne se sent pas concernée par ça. Et c'est dommage parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut éviter tout ça. Donc ça passe par une information, par une prévention. Et qui n'est pas assez faite aujourd'hui, c'est sûr. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une ouverture dont il faut profiter, c'est certain.
Et vous pouvez d'ailleurs retrouver Bruno et ses conseils sur sa page Facebook, Instagram ou sa chaîne YouTube Fire Consulting.
Merci Claire pour ce reportage et donc, vous l'avez compris, pour retrouver toutes les vidéos de Bruno Bonneau, c'est une sur la chaîne YouTube Fire Consulting. Les haies bocagères disparaissent à vitesse grand V de nos paysages, c'est ce que dénonce entre autres choses le film réalisé par le Mayennais Cyril Le Tourneur, intitulé « La grâce du sillon ». La suite d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter le morceau « Skid » de Love. When it's cold out, they don't feel a thing. Snowing heavily, but it's just nothing. The eye would flicker, it would all go away. But could you remember a better day?
the harsh blue lights of early morning dew. Struggle up now, the gutters are empty.
C'était le groupe Skid sur l'autre radio. Vous écoutez bien sûr l'émission L'Agité du local. De moins en moins d'arbres, de haies et d'endroits laissés naturels par l'homme, c'est le constat et le déclic du réalisateur Cyril Le Tourneur qui a tourné depuis 2018 La Grâce du Sillon. Le film donne la parole à plusieurs spécialistes et militants sur le changement des paysages ruraux en Mayenne et ailleurs. Il a commencé à être projeté en salle au mois d'octobre, il le sera demain en ligne, l'occasion de faire passer un message, l'homme doit arrêter de modifier les paysages naturels. Interview croisée d'un des protagonistes du film et de son réalisateur.
Jean-Marc Laloz, donc coordinateur du collectif Bocage 53.
Eh bien, moi, je m'appelle Cyril Le Tourneur. Je suis reporter, photographe, vidéaste, indépendant. Je fais ce métier depuis déjà quelques décennies, mais toujours en indépendant. Je n'ai jamais été salarié. C'est mon premier 52 minutes en réalité, puisque je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait toujours des formats assez courts. Et c'est un 52 minutes qui est consacré, comme vous l'avez pu le voir, au territoire de la Mayenne, sous l'angle de son paysage, sous l'angle d'un certain nombre de sujets qui me tenaient à cœur. Ça n'est pas un reportage d'investigation, c'est plutôt un point de vue que j'assume, où il y a un certain nombre d'intervenants, comme Jean-Marc, qui expriment à leur façon, chacun dans leur domaine, une certaine colère de voir un paysage s'abîmer pour des tas de raisons qu'on pourra évoquer tout à l'heure si vous voulez. Ce qui me touche le plus, c'est la banalisation du paysage. C'est-à-dire que plus ça va, plus on va voir des territoires qui avaient des vraies caractéristiques en termes de paysage naturel. Et ici, un écosystème, Jean-Marc en parle très bien, qui est unique puisqu'il n'y a pas d'équivalent sur la planète. Un écosystème créé par l'homme. On arrive à une espèce d'appauvrissement du paysage, puisqu'on va bientôt, on ne pourra plus distinguer tel territoire de tel autre, parce que, en fait, tout a tendance à se ressembler de plus en plus. C'est-à-dire qu'en plus, déjà, l'agriculture industrielle, très consommatrice d'espace, donc elle lamine quelque part le paysage, puisque c'est sans cesse des agrandissements de parcelles. Ici, on connaît le problème quand même assez bien. Qu'ensuite, ce territoire aussi a été affecté, à mon sens, par beaucoup, beaucoup de grandes infrastructures ferroviaires et routières qui ont participé aussi à une espèce d'aplatissement des terres, comme le dit Trassard. Et le Trassard dit par ailleurs, le jour où toute la France ressemblera à la Beauce, ben, je crois qu'on aura perdu quelque chose. C'est un peu ça qui me tient à cœur de montrer, parce que encore une fois c'est pas un reportage journalistiquement équilibré. Je vous entendrai pas la voix des représentants officiels de ce département, mais plutôt des cris de colère un peu éparpillés. Voilà. Il faut préciser que ce film, en fait, il a vu le jour grâce à une rencontre. C'est Antoine Glémin qui est venu me voir un jour avec son équipe d'Atmosphère Production pour me proposer de réaliser un document, une fiction ou un documentaire. Son principe dans l'association Atmosphère Production, c'est de confier, de proposer un cinéaste ou un réalisateur, un documentariste, quelques types de documents, mais que ça se soit tourné en Mayenne. Donc moi, j'avais réfléchi, j'avais commencé déjà à travailler en photographie sur la construction de la ligne LGV qui m'avait quand même un peu choqué. Et donc c'est un thème très parallèle, et en tirant des ficelles, c'était l'époque d'ailleurs où le collectif Bocage venait de se créer. Donc là, il y a un terreau formidable de spécialistes comme Jean-Marc, comme Bertrand Jarry et d'autres. Et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai aussi interviewé un professeur de l'université de Rennes qui avait le recul suffisant pour expliquer historiquement un petit peu tout ça, en tout cas sur les territoires de l'Ouest. Et puis la première personne que j'ai interviewée, c'est Jean-Loup Trassard en 2017. Où là j'ai découvert vraiment un personnage formidable et très très remonté, quoi. Très remonté contre les destructions qu'il a vues depuis 40 ans autour de chez lui.
Bah écoutez, parce que d'abord c'est une passion, pour ce paysage, pour ce pays, parce que tout gamin, j'avais de la famille éloignée à Souvigné-sur-Sarthe, c'est pour la Mayenne, mais c'est frontalier. Et en fait, c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie, et c'est certainement parce que ce paysage de bocage est à l'origine de mon goût pour l'environnement et tout ça. Une des premières images que je garde tout gamin dans les bras de ma grand-mère, c'est une des premières images, vous savez, qu'on se souvient. J'étais dans ses bras, et ce jour-là, le fermier où on était, il avait décidé de faire abattre une haie. Des gros bulldozers sont arrivés le matin. Je pense que ça, c'est une image qui m'est restée gravée. Donc, quelque part, je pense que de là est venu mon goût pour l'environnement. Et puis après, bah, ça ne s'est jamais démenti. Alors, il y a eu différentes activités. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, dès que Cyril, bon, en dehors du personnage de Cyril, qui était quand même très convaincant et passionnant, en même temps, un contact qui s'est bien établi, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ? Parce que, quand même, on a fondé ce collectif Bocage, je ne suis pas tout seul, hein, c'est quand même plus de 25 associations. Il a été créé la mi-juin, disons, fin juin 2018. Donc, je me suis dit, bah, c'est une occasion idéale de témoigner, de faire passer certains messages, voilà, qui nous paraissent intéressants, avec certaines valeurs qu'on a posées dès le départ au niveau du collectif, c'est-à-dire pas chercher de bouc émissaire, vous savez, on cherche toujours le responsable, pas de stigmatisation des paysans, mais tirer à boulet rouge sur le modèle agricole productif, c'est enfin des valeurs comme ça, qui je me dis, tiens, ça peut être une occasion de passer, et puis en laissant, bien sûr, Cyril, la totale responsabilité, tout à fait consentie des choix qu'il ferait, parce qu'on savait que forcément, il y avait des choix à faire quand on fait un film comme ça, quoi.
Pour compléter ce que disait Jean-Marc, c'est vrai qu'il y a 12 intervenants, que sur un 52 minutes, c'est beaucoup. Et donc, évidemment, il y a une frustration parce que Jean-Marc a dit des tas de trucs formidables, très passionnants, et comme d'autres. Et évidemment, c'est très raccourci. Idéalement, il aurait fallu faire un 90 minutes. Bon, mais moi, j'ai pas non plus. J'étais pas. Voilà, il y avait une production, une diffusion qui était enclenchée. Moi, je me suis peut-être pas suffisamment bagarré pour que le format soit plus long et qu'on laisse davantage la parole aux intervenants. Mais c'est vrai que 12 intervenants pour 52 minutes, c'est beaucoup. Puis après, l'idée m'est venue pour construire la narration, de faire intervenir un épouvantail qui était un peu la métaphore de la civilisation rurale disparue. Voilà, le côté conte me plaisait pas mal parce que je trouve que le conte permet de sortir un peu du réel et de dire des choses parfois plus fortes que si on est uniquement dans le réel d'ailleurs. Et donc cet épouvantail était construit par un couple de plasticiens dans le sud de Mayenne. Et puis il a été manipulé manuellement avec parfois quelques complications. Et puis France 3 m'a proposé de numériser le personnage pour intégrer dans le sujet 7 séquences qui ont été numérisées. Et ça, il y a un gros travail de France 3 Nancy qui a fait la numérisation. Oui, c'est ça, en fait, c'est lui qui raconte. Et le commentaire qui va sur les images de l'épouvantail est un commentaire un peu littéraire, parce que moi j'ai été imprégné des lectures de Trassard, évidemment en premier, donc il y a pas mal d'extraits de Trassard et de Sylvain Tesson que j'ai un peu mixé, que j'ai un peu adapté pour construire le commentaire. Ouais. Non, on n'est pas sur un documentaire classique, bien sûr, on est sur quelque chose, voilà, j'ai voulu essayer de faire quelque chose un petit peu différent. J'ai pas énormément de moyens, donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais je suis content d'être allé au bout de ce travail. Maintenant, il y a encore des tas d'autres choses à faire sur ce sujet. Et puis, c'est bien que ça fasse réagir des gens, ça c'est formidable. Évidemment, la thématique du bocage intéresse en premier lieu les Mayennais, mais si vous voulez, si on prend un peu de recul, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur certains autres territoires en France. Je veux dire, l'étalement urbain, la surconsommation d'espace rural en France, on est les champions du monde quand même. Hein. Il y a 15 000 ronds-points en France, il n'y en a que 5 000 aux États-Unis. Cherchez l'erreur, quoi. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qu'on surconsomme de l'espace agricole, rural, d'une façon aussi excessive dans ce pays. Donc évidemment, ça peut être parfaitement élargi sur d'autres territoires. Mais en tout cas, la thématique du bocage est une thématique réelle. On le dit dans le film, 400 ou 500 km de haies abattues par an pour, sous le contrôle du grand chef, 80 km de replantés
D'après les chiffres officiels de la DDA sur des enquêtes en 90, en 96 et ce qu'on appelle le point info bocage qui a été mis en place par la Chambre d'agriculture en 2018, il y a 600 km par an qui ont disparu entre 90 et 2018. 600 km par an, c'est pour nous amener à 31 000 alors qu'on était à 48, 49 000. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé à des chiffres très bas. Et par exemple, ici, là, dans le pays de Mélégret où nous sommes aujourd'hui, c'est typiquement un des coins où le mètre linéaire par hectare de surface agricole est le plus bas. C'est-à-dire qu'on est en dessous du minimum préconisé par la préfecture de 70 mètres linéaires de haies par hectare de surface agricole utile. Donc, il y a des coins, on en est à un stade où pouvoir atteindre ce minimum qui, pour nous, Association de protection de l'environnement, est un minimum, est un point de départ de la reconquête, parce qu'on considère que du point de vue de la biodiversité, il faut au moins 100 mètres à 120 mètres linéaires. Donc, il faut d'abord remonter à ce niveau minimum et ensuite reconquérir, replanter, avec un autre avantage, c'est que ça reconstitue aussi le pouvoir de captation du carbone, puisque la première mission fondamentale du bocage, c'est le puits de carbone, avec bien évidemment à quasi-égalité la biodiversité, et ensuite les problèmes de la ressource en eau et la sauvegarde des sols. Donc tout ça, vous voyez, c'est fondamental, et on en est là, donc on espère qu'on va pouvoir apporter notre contribution à cette évolution, et le film de Cyril est vraiment le point de départ, je pense, pour le grand public, les personnes qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, et en particulier les citadins, pour se rendre compte à quel point, vu de la ville, ils ne se rendent pas compte de ça, mais à quel point, à terme, ça peut impacter leur mode de vie.
Voilà, la destruction du bocage, les grandes infrastructures et l'étalement urbain avec les périphéries des bourgs, etc., qui empiètent aussi de plus en plus. Mais c'est beaucoup. Donc c'est forcément survolé. Hein. Moi, je prétends pas, encore une fois, avoir fait un document rigoureux sur tous ces sujets. C'est impossible de faire ça en 52 minutes. Mais en tout cas, essayer de donner un sentiment que je crois être partagé par d'autres personnes. Et les choses ne bougent pas. C'est terrifiant, quoi. Et puis, je sais pas, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit. Dans le film, il y a un garçon qui s'appelle Christophe Piquet, qui est un remarquable agriculteur, qui, au bout de 50 ans, a décidé de se convertir à la bio, au bio. Eh bien, le jour où ses voisins ont appris que Christophe Piquet allait se convertir au bio, ils ont tout de suite pensé, ils ont fait une phrase du genre: ah ben, le Christophe, il va se laisser pousser les cheveux, il va se laisser pousser la barbe, il va laisser pousser les épines et les ronces. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est culturel, quoi. Chez une grande majorité d'agriculteurs, de professionnels de la terre, c'est quand même incroyable. C'est des idées qui sont ancrées depuis des générations, et que faire différemment en termes d'agriculture, eh ben, c'est un saut culturel et un changement de mentalité profond, quoi. Et c'est pas si longtemps, c'était il y a 10 ans, quoi. Je pense que sur les mentalités, et pourtant on ne cesse d'en parler sur les médias, que la planète est fragile, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut se calmer sur le productivisme, sur l'extension urbaine. On sait que tous ces sujets-là sont déterminants pour les générations à venir, donc. S'il faut être atteint de cécité ou dans le déni total pour ne pas l'admettre.
La Grèce du Sillon est visible sur Internet demain jeudi à 20h30 et ce dimanche à 16h30. Il suffit de s'inscrire au préalable sur le site de la 25e heure, de prendre ses billets, comme quand vous allez au cinéma classiquement, et d'être à moins de 80 km de Château-Gontier, puisque la séance est proposée dans le cadre des ciné-rencontres du Palace. Vous pourrez même poser vos questions par chat après la projection virtuelle à Jean-Marc Laloz et Cyril Letourneur que vous venez d'entendre. On revient d'ici quelques minutes après la pause musicale assurée par Cassius avec le morceau Action. It takes two, point on you, got no clue, maybe let's pretend. Where you going, what you showing, cash you blowing, face still glowing, ticking, talking, we can rock it, business talking, electric shocking. When you see a man doing his tous sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et on termine comme d'habitude avec notre rubrique initiative présentée par Claire. À changer, deux masques lavables, Claire, ont été offerts à 250 élèves.
Et oui, cette initiative a été rendue possible grâce à l'amicale laïque de Changer qui a pu faire des économies sur les voyages scolaires et donc offrir des masques lavables aux 250 élèves de CP au CM2 de l'école publique du Chemin Vert. Ce sont des masques fabriqués en Mayenne par l'atelier Mouette Verte. Pour la présidente de l'amicale Audrey Violet, c'est le but est d'avoir des moyens pour les enfants, pour aider les familles, et cette action rentre parfaitement dans cet objectif-là.
Et on parle aussi d'un cybercafé pour les personnes isolées.
Oui, près de Mêlée, le café associatif de Chémeret-le-Roi ouvre une boutique éphémère et un espace internet à partir de ce samedi 12 décembre. Il y a 3 mois, une dizaine de bénévoles ont créé l'association pour ouvrir un café-épicerie au sein de la commune. Après plusieurs réunions avec les habitants et la mairie, l'espace va pouvoir ouvrir. Le côté bar ne peut pas encore ouvrir au vu des restrictions sanitaires, mais en attendant, il y aura une boutique éphémère spéciale Noël avec 5 producteurs locaux, puisque cette année ils sont privés de marché de Noël. Il y a donc aussi un espace cybercafé avec une salle privée équipée d'ordinateurs et de connexions Wi-Fi. Très utile donc pour cette période de confinement, pour voir ses proches par exemple. Si vous êtes intéressé, contactez le café associatif au 06 87 06 12 57.
Et pour la culture, cette année est très compliquée, on le sait. Pourtant, un groupe local a profité de ce deuxième confinement.
Et oui, c'est le groupe Badenia Folie qu'on avait entendu du coup début septembre sur nos ondes. Badenia pour frère et Folie pour musique en Bambara, un dialecte originaire du Mali. Et il est composé de 2 musiciens mayennais. Malheureusement, les concerts prévus n'ont pas pu voir le jour. C'est pourquoi pour les soutenir, vous pouvez vous rendre sur leur cagnotte du site Eloasso en tapant Badenia Folie. Cette cagnotte participative permettra au groupe d'enregistrer un album car les morceaux sont déjà prêts. Le CD est accessible à partir de 8 € pour écouter quelques création, n'hésitez pas à aller voir leur compte YouTube Badenia Folie.
Avec notamment évidemment leur fameuse chanson, une chanson qu'on avait déjà diffusée justement à l'occasion de cette interview, Ma Petite Mayenne. Merci beaucoup Claire. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local. Merci donc Claire pour cette émission.
Merci Marie et merci tout le monde et à demain.
À demain, bon après-midi à toi et puis attention, ne partez pas tout de suite puisque évidemment les émissions se poursuivent sur l'autre radio. À 19h, il y aura Novorama et puis nous avec l'agité du local, on se retrouve demain à 12h15 toujours en compagnie de Claire. Je vous souhaite un très bon après-midi et une bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.